Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
You're surrounded now. Give yourselves up. There's no way to escape. Come on out, be sensible. Why make your situation worse? Surrender.
When Maggie was a smoke 12 years ago.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties vidéo de nos éditeurs préférés en matière de films policiers. Nous évoquerons trois Poliziesco édités par Elephant Film, Colère Noire et Mr. Scarface de Fernando Di Leo, ainsi que Deux flics à abattre de Ruggero Deodato. Ces deux films, nous les aborderons en compagnie de ceux qui ont participé au bonus de ces éditions collector, à savoir les critiques de cinéma Gérald Duchossois et Romain Van Destichel. Nous aborderons également le premier film d'un des grands du Nouvel Hollywood, La Cible de Peter Bogdanovich, édité par Carlotta Film. Également au programme, un film à suspense hein, qui est sorti chez Elephant Film, Piège à minuit de David Miller avec Doris Day. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Sandrine Hiver, Jérémy Coiffman, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, ainsi que chez tous les bons libraires. À mes côtés, pour causer films policiers, mes deux policiers à moi, mes deux gardes du corps, mes deux durs à cuire. Tout d'abord Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, bon, sans ses sucettes, mais avec la même coiffure que Telly Savalas dans Kojak, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac chef. Bonjour Thomas.
Salut Damien, salut Gégé, et bien évidemment salut à toutes.
Nos amis d'Elephant Film nous gâtent, en sortant à intervalles réguliers maintenant des polars italiens, des poliziesco, comme nous les aimons. Et il se trouve que là, ils nous ont sorti deux petits Fernando Di Leo de Derrière les fagots, Colère Noire et Mr. Scarface, ainsi qu'un film scénarisé par Fernando Di Leo, mais réalisé par Ruggero, Cannibal Holocaust et Deodato. Je veux bien sûr parler de Deux flics à abattre, Live Like a Man, Die Like a Cop. Tout un programme hein, dans le titre anglo-saxon. Deux films dont nous allons parler avec deux illustres critiques de cinéma que sont nos amis Gérald Duchossois et Romain Van Destichel. Gérald Duchossois et Romain Van Destichel qui interviennent dans les bonus présents dans ces trois éditions collector. Et donc tout de suite, eh bien, Gérald et Romain au micro de Culture Prohibée. Colère Noire, qui est un film de 1975, donc réalisé par Fernando Di Leo avec Luc Miranda, Cocorico. Est-ce que vous pouvez nous présenter le film ?
Colère Noire, le titre italien, c'est La città sconvolta, caccia spietata e rapitori. Donc, c'est un peu plus long, effectivement. Mais je pense que à l'époque, les distributeurs qui ont changé le titre, alors je ne sais pas qui a changé le titre exactement, je pense que c'est le distributeur, a surtout focalisé justement sur le personnage joué par Luc Miranda. Luc Miranda, il joue le personnage d'un garagiste, donc on comprend au début que c'est quelqu'un qui a dû faire des compétitions de moto, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de coupes, etc. Et il est avec un jeune garçon, on comprend très vite que c'est son fils, grâce à une tasse de café, donc ça c'est très italien aussi, grâce à une tasse de café prise en commun, on voit qu'il y a une forte complicité entre eux, et on comprend que cette complicité, elle vient du fait que... Enfin, entre autres, probablement qu'il n'a plus sa mère, donc parce qu'on voit la photo d'une femme, et on comprend de par leur regard que c'était probablement la femme défunte du personnage joué par Luc Miranda. Et donc l'enfant est enlevé avec un autre enfant, un copain d'école, qui lui est le fils d'un millionnaire, un promoteur très riche, joué par James Mason, qui vient cachetonner, mais qui cachetonne très bien, qui joue très bien, donc il n'y a pas de mal à cachetonner. Et alors déjà, ça c'est très étonnant, parce que les deux enfants sont dans la même école, c'est moyennement crédible dès le départ, on se dit, bon, a priori, le fils du millionnaire, il ne serait pas dans la même école que le fils du prolétaire. Et on a déjà là un travail de Dileo sur le sous-texte social, qui va se développer tout au long du film, à travers une caractérisation des personnages qui est quand même assez forte, mais qui n'est pas manichéenne. Elle peut sembler manichéenne au départ avec ce personnage joué par James Mason qui veut pas payer la rançon, qui tergiverse, qui attend un petit peu, qui veut payer moins, etc. Donc qui joue avec la vie de son fils et du fils donc du garagiste. Mais c'est beaucoup moins manichéen qu'il n'y paraît. Et arrivé à un moment, effectivement, le titre français se justifie, Colère noire. La colère engendre quelque chose. Alors moi, j'aurais plutôt appelé colère rouge, eu égard à ce qui se passe dans le film, mais qu'on va pas divulguer ici. Mais voilà, c'est un film, c'est un des films majeurs, je pense, de Fernando Di Leo, de son époque poliziotesco.
J'ajouterais que le coup de génie, alors Fernando Di Leo, on sait qu'il était communiste, hein, et que le coup de génie du scénario, c'est d'avoir justement fait que ce patron, il est à la fois, ce vil patron, hein, il est à la fois rattaché donc aussi bien à la richesse, à l'argent, mais aussi à la noblesse. Puisqu'il est marié avec une comtesse, ce qui est du coup ce qui renforce le propos très très lutte des classes de Di Leo. Et de l'autre côté, on a cet ouvrier qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément un personnage sympathique. Par contre, il est très très jusqu'au boutiste. Et j'ajouterais que en fait, Di Leo plus Luc Miranda, c'est deux films assez peu connus. Ce Colère noire et aussi Salut les pourris, qui sont deux excellents poliziesco assez méconnus en fin de compte.
Ouais, Salut les pourris, il est terrible, il est glaçant. Dans Colère noire, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est on peut pas s'empêcher de penser que Ron Howard, les gens qui ont écrit Rançon à l'époque avec Mel Gibson, ont vu ce film parce que en fait le personnage de Mel Gibson, joué par Mel Gibson dans Rançon, c'est un peu une synthèse des deux personnages, celui joué par James Mason et celui joué par Luc Miranda, parce qu'il y a le côté vraiment, richissime, du gars qui veut rien lâcher, et le côté jusque-boutiste, violent, brutal, limite borné de Luc Miranda, parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément un personnage très sympathique dans le film.
On va continuer cette exploration des polars italiens édité par Elephant Film, avec un autre film signé Fernando Di Leo, avec Al Cleaver et Jack Palance, c'est Mr. Scarface. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce film qui a l'air d'un film plus classique avec son histoire de guerre des gangs, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça?
Ouais, c'est un film de mafia. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le film, c'est qu'il y a une espèce de d'ambiance post-parrain et à la fois extrêmement populaire dans le traitement. C'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement avec la famille du parrain, donc joué par Jack Palance, énorme star, gueule pas possible, vraiment un personnage qu'on peut pas manquer, et puis un film de vengeance aussi qui est assez exceptionnel, avec une introduction dont on ne dira rien ici pour laisser vraiment toute la surprise aux futurs acheteurs du Blu-ray, mais qui est totalement exceptionnelle, vraiment surprenante dans le cadre d'un Poliziotesco, qui est vraiment abouti visuellement, très troublante, qui fait vraiment plaisir, parce qu'il y a une recherche formelle qui est manifeste à ce moment-là, qui va changer après au cours du film, puisqu'on a un couple, un body movie, et non pas bad movies, comme le disent bon nombre encore de lecteurs, un body movie, mais qui pourrait être aussi body parce qu'il y a une intervention des corps. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film, mais ça serait trop en dire. Et donc, c'est un film qui est bien violent, hein, quand même. On se fait bien plaisir par moments. Et puis, un film qui joue beaucoup sur l'ambiguïté des corps, des personnages et de l'interversion du blond, du brun, comme ça pouvait être le cas assez typiquement dans ce genre de film.
Je dirais que c'est en plus, il y a une vraie patte d'Iléo parce qu'une fois de plus, il nous donne à voir le quotidien de mafieux. C'est un quotidien pas très reluisant, ça fait pas rêver, ça donne pas envie d'être mafieux quand même quand on regarde le film.
Non, un peu comme tu vois dans Ghost Dog de Jim Jarmusch, c'est-à-dire que c'est des petites mains, quoi, c'est des petits bras. C'est des gars qui n'ont pas d'avenir et du coup qui n'ont pas d'ambition. Et en fait, pareil, sans trop en dire, la réunion de quelques personnages dans un but bien précis, moi, ça m'a rappelé un peu ce qui se passe dans The Big Racket de Castellari, mais avec le côté tragique en moins. Parce que là, il y a quand même une touche d'humour qui est assez rare chez Diléo et surtout qui est réussie. Et ça aussi, c'est rare, parce que l'humour chez Diléo, c'était rarement réussi. Je pensais à Ursula Lantigone, par exemple, ce genre de film. C'était franchement pas très bon. Alors que là, il y a quelque chose qui... On sent que les westerns à la Trinita, et qui s'en est suivi, a infusé, quoi. Et c'est vraiment devenu... C'est une très bonne découverte, très très bonne découverte.
Oui, avec une atmosphère aussi qui est vraiment particulière. Là aussi, bien mise en scène, bien éclairée. Il y a de belles scènes dans les cercles de jeu qui sont bien filmées avec de très beaux travelling. Je crois que Romain en parle dans les bonus, si je me souviens bien. Donc il y a un effort vraiment particulier sur la mise en scène et sur cette mise en valeur de cette culture populaire italienne, du fait de se rassembler, d'être tous unis dans le jeu. Évidemment, il y a très peu de femmes dans ces moments-là, hein. C'est un univers masculin, mais bien attendu dans le cadre d'un Poliziotesco, hein, assez violent, et vraiment bien mise en scène, qui a une angoisse sourde et qui pourrait éclater à tout moment. Là, ça aussi, c'est vraiment très, très appréciable dans le film, cette espèce de violence qui va émerger comme un volcan qui exploserait et qui est symbolisé par le jeu.
Vous écoutez les critiques de cinéma Gérald Duchossois et Romain Van Destichel au micro de Culture Prohibée. la même année, hein, Fernando Di Leo ne va pas tourner, mais va voir un de ses scénarios adaptés par Ruggiero Deodato, le fameux réalisateur de Cannibal Holocaust, avec deux flics à abattre, avec Ray Lovelock et Marc Porel. C'est le troisième film de cette livraison éléphant de film. Le film raconte l'histoire d'un duo de flics qui respecte aucune règle, hein, j'ai envie de dire un duo de psychopathes. Le film a un côté très irresponsable d'ailleurs, hein, on peut regretter presque que le film est très fun, attention, hein, c'est incroyable, il y a tout le temps de l'action et tout ça, mais on peut presque regretter qu'il ait enlevé, pour moi, ce qu'il a gardé une chose de la patte Di Leo, c'est le discours sur le plaisir féminin qui est fait par la secrétaire qui travaille avec eux, mais il a enlevé quelque chose qui aurait fait tout le sel de ce buddy movie, pour le coup, c'était que normalement les deux héros devaient être un couple homosexuel.
Et oui, Deodato a fait sauter cette partie primordiale du scénario de Di Leo. Le titre original, c'était Mon mini sinace politeoti si muore, donc tu nais homme, tu meurs flic, tu meurs policier. C'est ça. Alors en anglais, c'était Live like a cop, live like a man, die like a cop. Donc c'était un peu différent, c'était moins puissant.
Mais aussi avec un sous-entendu homosexuel quand même. Hein, quand on regarde le titre, ça cadre quand même bien. Hein.
et d'entrée, ce qui est très étonnant, c'est que Deodato n'a pas souhaité conserver cet aspect du scénario. En revanche, la manière de présenter les personnages dans la scène d'introduction avec la musique, la chanson, c'est clairement un couple homosexuel. C'est-à-dire qu'ils partagent des choses, ils vivent ensemble. Alors après, il a ajouté des choses un peu graveleuses avec la nièce de la concierge, etc. Enfin, un peu graveleuses, carrément graveleuses. Comme s'il fallait justifier le fait qu'ils vivent ensemble, mais qu'en fait, c'est deux tombeurs, etc. Mais en fait, c'est clairement un couple homosexuel, et dès le début. Donc c'est étonnant qu'il n'ait pas voulu garder cet aspect, alors qu'il le montre très, très clairement, très précisément, dès la scène d'introduction.
Ah oui, l'un est derrière l'autre sur la même moto, c'est vraiment très étonnant. Enfin, on a envie d'en rigoler, on se demande si c'est pas fait exprès pour faire passer un sous-texte à la rigolade, parce que y en a un qui arrête pas de se pencher. Alors on sait bien que c'est parce que, il était gêné, en fait, il arrêtait pas de se pencher un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir voir. Donc c'était pas du tout une lutte de conflit ni une domination sexuelle. Mais en tout cas, nous, en tant que spectateurs à l'écran, ce qu'on voit, c'est effectivement un rapport extrêmement proche entre deux amis qui en plus n'ont pas de casque, donc on voit bien les visages. Il y a ces visages angéliques, magnifiques. Il y a Marc Porel, c'est quand même un acteur extrêmement charismatique, ambigu, avec un sourire d'ange et puis à la fois de démon. C'était vraiment un super acteur. Hein. On se souvient de lui dans le film de Lautner, hein, sur la route de Selina. C'est quand même un acteur génial, quoi.
Un grand acteur. Trop tôt disparu, malheureusement. Mais après, je pensais à ce que disait Jérôme en parlant de Deodato. Peut-être que Deodato, on ne peut plus lui demander maintenant, mais peut-être que le réalisateur a eu peur aussi, il ne savait pas comment traiter les choses. Il y a plusieurs versions qui circulent sur la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire il a refusé violemment, ou il a fait comme si il a changé sans en parler, il a fait comme s'il n'existait pas. Enfin, voilà, pour ce genre d'histoire, dans le cinéma, il y a toujours 15 000 versions. Mais à nouveau, ce qui est très étonnant, c'est de montrer cette complicité. Et alors, cette complicité dans le mal, c'est-à-dire qu'il y a un côté Raskolnikov chez eux. Quoi. Ils aiment faire le mal. Et ça, c'est pareil. On l'a dès la scène d'introduction. La présentation des personnages, la psychologie des personnages est posée tout de suite. Et ça me fait penser à ce que disait Venantini dans Les Tontons Flingueurs. La psychologie, il n'y en a qu'une, c'est défourailler le premier. Bah, c'est ça. Quoi. Eux, c'est vraiment ça.
C'est vrai que c'est un couple de psychopathes, en vérité.
Ouais, c'est comme s'il sortait du caniveau. Hein. D'ailleurs, quand il rencontre le commissaire, je suis allé vous chercher. C'est pas pour, je vous ai recruté pour ça. C'est très étonnant, hein, cette façon. Comme des hommes de main, quoi, plus que des policiers. Donc, c'est vraiment étonnant. J'imagine qu'il y avait aussi un concours de la police. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas un entretien d'embauche. On sent qu'il y a une attirance pour ces deux personnages qu'on met en avant effectivement voilà en tant que star à l'écran et puis aussi de l'autre côté dans le film dans le scénario de deux personnages qui sont des petits voyous hein, mais avec une inclinaison pour une extrême violence quoi hein. c'est vraiment ça qui se répand tout au long du film.
Eh bien, en tout cas, nous, on vous remercie, Gérald Duchossois et Romain Van Destichel. On rappelle que Colère Noire et Mr. Scarface, deux films de Fernando Di Leo et deux flics à abattre de Ruggero Deodato, scénarisés par Fernando Di Leo, sont disponibles chez Elephant Film et dans les bonus de ces Blu-ray et DVD. Eh bien, en vous regardant, on en apprendra encore plus que ce qu'on vient de se dire. Écoutez Culture Prohibée, spécial film policier. Après donc ces trois policiers secours, je répète, Colère Noire, Mr. Scarface et Deux flics à abattre, tous les trois disponibles chez Elephant Film. Nous allons aller faire un tour du côté de chez Carlotta Film pour parler d'un film un peu particulier. C'est le premier film d'un certain Peter Bogdanovich qui deviendra après célèbre pour un film comme La Dernière Séance, par exemple. D'ailleurs, dont les films de Peter Bogdanovich, hein, ces films sont globalement, en grande partie en tout cas, édités par Carlotta Film. Ça, c'est le premier film dont on va parler. Alors, c'est vraiment... les cinéphiles vous diront que ce n'est pas son premier film, en fait, parce que juste avant, il avait remonté un film venu du RSS qui s'appelait Planeta Bur de Pavel Klouchantsev. Et de ce film soviétique, Corman avait commandé à deux réalisateurs, Curtis Harrington et Peter Bogdanovich, de faire deux films séparés en utilisant des images de ces films. Donc Curtis Harrington avait fait Voyage to the Prehistoric Planet et Peter Bogdanovich, Voyage to the Planet of Prehistoric Woman. Voilà, il avait ajouté une petite touche sexy dans son titre. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'était son premier film. Son vrai premier film de fiction, c'est celui-ci, c'est La Cible. C'est un film de 1967-68, enfin, de la fin des années 60, qui est un film photographié par Laszlo Kovacs, quand même, excusez du peu, et qui est surtout un des derniers grands rôles aussi de Boris Karloff au cinéma. Boris Karloff qui joue un peu son propre rôle, en fait, dans le film, hein, qui s'appelle Byron Orlok, et qui annonce sa retraite après son dernier film, qui est d'ailleurs L'Halluciné, dont on voit... plein de passages dans le film, parce que le film est produit par Corman, donc il avait de la bande d'Halluciné, donc pour que le film fasse une heure et demie, on met des extraits du film avec Boris Karloff, et puis comme Boris Karloff lui devait deux jours de tournage, il lui dit écoute, tu me dois encore deux jours de tournage avec ton contrat, tu vas aller voir ce petit gars là, Bogdanovich, et puis tu vas faire un film, on va bien te trouver un scénario, on va te trouver un truc, voilà. Et le truc assez rigolo, Bogdanovich lui est cinéphile et il connaît déjà le cinéma par cœur, parce qu'il a interviewé tous les plus grands, il est passionné lui-même de cinéma et donc son film va pas ressembler au tout venant, quoi, voilà. Et Byron Orlok, c'est donc Boris Karloff, donc presque dans son propre rôle, annonce sa retraite au grand désespoir d'un certain Sammy Michaels. Alors Sammy Michaels, qui est joué par Bogdanovich lui-même, qui est un jeune réalisateur qui veut à tout prix avoir Byron Orlok pour lui faire jouer un grand film, lui faire tirer sa révérence sur un immense film de cinéma. Enfin, tout du moins, c'est comme ça que lui voit la chose. Il est plein d'enthousiasme. Et au même moment, Bobby, qui est joué par James Brown. Alors James Brown n'a rien à voir avec l'inventeur de la funk, mais qui est là plutôt... les gens d'une certaine génération le connaissent tous, puisque c'est là que le choix de casting de Bogdanovich est très intéressant. C'est le père du gamin dans Rintintin, la fameuse série Rintintin, One Ton Ton dans la version américaine. Et donc, qui a une certaine image de type un peu au physique idéal et tout ça. Et là, il joue un vétéran du Vietnam, un assureur, qui a des pulsions de meurtre, en fait, qui est un psychopathe, hein, et qui va d'abord tuer sa femme, puis sa mère, et puis qui va devenir un mass murderer, et qui va tuer des gens au hasard. Et évidemment, c'est inspiré de la vraie affaire Charles Whitman, qui en 66, hein, c'est-à-dire un an avant le tournage, le film est tourné en 67, sort en 68, enfin ça dépend des sources, certains disent qu'il est sorti en 67, en tout cas en France ce serait 68. Et Charles Whitman, lui en 66, dans la nuit du 1er août 66, tout juste après minuit, il va chez sa mère, il la tue, il rentre chez lui, il poignarde sa femme, il écrit une lettre dans laquelle il dit la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et il file sur le campus d'Austin, à l'université d'Austin, et là, il se met en haut d'une tour, et il tire pendant plusieurs minutes sur un paquet de gens, il tue 16 personnes, il y a 30 blessés, et dans les gens qui n'ont pas été touchés, qui sont présents ce soir-là sur le campus pendant la tuerie, il y a un certain Toby Hooper. Donc ça l'a peut-être un peu traumatisé, hein, qui fera quelques années plus tard... un petit film qui raconte quelque chose d'assez horrible et qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Voilà, un immense film. Et donc, le film s'inspire de tout ça. Et le film, faut savoir au départ qu'il est juste uniquement centré sur le tueur, qu'il est une création de Bogdanovitch qui est centrée sur le tueur, il y a le tueur, et puis boum, on l'abat. Voilà, bon. Et Bogdanovitch, qui a interviewé beaucoup de réalisateurs, qui est très respecté en tant que critique de cinéma, il s'est fait pote avec l'immense Samuel Fuller. Et Samuel Fuller lui dit, bon, c'est un peu léger, on peut tirer le film vers le haut. Alors donc Samuel Fuller l'aide, il restructure le scénario que Bogdanovitch avait écrit avec sa femme Polly Platt. Et il lui donne des idées, en particulier l'idée du final. L'idée du final, qui est cette scène saisissante, où le tueur, le mass murderer, est attaqué d'une part par Boris Karloff en chair et en os, et de l'autre côté par un Boris Karloff de celluloïd, lors d'un final qui est magnifique. En fait, d'ailleurs, ce qui fait, pas mal réagir Bogdanovitch, qui dit, moi, en fin de compte, on me prête beaucoup de choses par rapport à ce film dont je ne suis pas vraiment responsable. Samuel Fuller a eu parmi toutes les meilleures idées du film, sauf qu'il n'a pas voulu être crédité parce que c'est un gentleman. Et la fameuse scène où Boris Karloff et Peter Bogdanovitch se mettent une murge et se réveillent le matin, et tout à coup, il y a Bogdanovitch qui s'aperçoit qu'il est allongé à côté de Karloff, donc il a un sursaut de terreur parce qu'il voit l'acteur qui l'a terrifié pendant toute son enfance dans des films. Et Karloff se lève péniblement, parce que c'est déjà un vieil homme qui boite, qui est fatigué, et il tombe devant son reflet dans la glace, et lui-même sursaute en se voyant dans la glace. Et ça, c'est une idée de Karloff. Donc, et tout ça, c'est ce que Bogdanovitch nous dit dans les bonus de cette édition Carlotta. Et ça prouve que aussi Bogdanovitch, il est assez humble, parce que quand on voit la suite de sa carrière, bon, c'est un immense réalisateur, pour moi encore trop mésestimé. Et le film est quand même d'une mise en scène très très précise. Jean-Baptiste Thoret, dans les bonus, souligne vraiment comment Bogdanovitch enferme ses personnages dans des cadres très claustrophobiques, en particulier quand il filme l'univers familial de ce type qui va décider de devenir un tueur. C'est des scènes très 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 marquantes, et puis c'est aussi la thématique famille je vouais qu'on voyait pas beaucoup. C'est aussi le syndrome post-Vietnam dont on parle pas à l'époque autant qu'aujourd'hui. C'est très très intéressant. On est quand même en 67 quand il tourne le film. Et puis c'est aussi un film dans lequel le sujet, en tout cas, l'un des sujets en tout cas, mais pour moi le plus important, c'est qu'on passe d'une horreur à l'ancienne, gothique, dans des décors classieux, à une horreur vériste, dans des décors urbains. Et tout ça est renforcé par quand même un choix de mise en scène très fort, c'est-à-dire le plan final qui vient accompagner le générique final de ce drive-in qui se vide et qui montre en fait la solitude des grands ensembles urbains avec cette voiture qui reste seule, évidemment. Il ne reste qu'une voiture sur le parking. Si vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi. Donc, et pour moi, c'est un film qui va bien au-delà de la simple petite série B qu'on a voulu vous vendre. Ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre méconnu, mais ça reste pour moi un très très bon premier film qui augurait effectivement de toute la place qu'allait prendre Peter Bogdanovitch dans le nouvel Hollywood à venir.
Mrs. Preston, over here now, Mrs. Preston.
Who are you?
You'll know just before I kill you.
Tony, he said he was going to kill me.
Someone's been pulling your leg.
Who are you? Who are you?
Mrs. Preston, can you think of anyone who might want to kill you?
No.
The story she told them sounded convincing. That every ring of the telephone meant shame and a threat of death. That unexplainable accidents happened wherever she went.
Look out below!
And yet they had every reason to doubt her.
Why don't you say what you're really thinking, Inspector?
What would that be, Mrs. Preston?
You don't believe me, do you? You think I made him up?
Starring Doris Day, in a role whose emotional power will surprise you. Rex Harrison, celebrated star of My Fair Lady. John Gavin, what game was he playing? Co-starring Myrna Loy, Roddy McDowell.
You've been threatening my wife. I have to turn you over to the police.
And Herbert Marshall. in a suspense drama played in a world of fashion and elegance.
The skeptical mind of Scotland Yard. The trouble is that no one but Kit has ever heard this man.
Shall I put the calls on the bill, dear?
What?
The phone calls, dear, last night. Johnny!
Vous écoutez Culture Prohibée. Petit retour en arrière maintenant. Parler d'un film tourné en 67, sorti 67-68 selon où on se trouve. On va parler maintenant d'un film sorti lui en 1960 avec une superstar, hein, Doris Day, qui était une superstar qui à l'époque venait de connaître un énorme succès dans des films à suspense, dont en particulier évidemment en 1956 L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Voilà. Et elle se retrouve donc au casting d'un film policier à suspense, d'un film policier du réalisateur de Seuls sont les indomptés, donc quand même capable de faire des chefs-d'œuvre. Ce réalisateur, c'est David Miller. Et bien, ce film, mon cher Thomas, raconte quand même quelque chose de très particulier, puisque c'est presque à la base, en tout cas, ça pourrait presque être un film fantastique que ce Piège à minuit, réalisé par David Miller et donc disponible chez Elephant Film.
Oui, avec Doris Day. Doris Day ne peut être que piégée à minuit. Donc oui, Doris Day joue la femme d'un entrepreneur, hein, d'un riche entrepreneur, qui, en sortant un jour de l'ambassade, se retrouve dans la brume londonienne, dans un parc, et puis elle entend une voix étrange, une voix un peu désincarnée, une voix de pantin, comme on peut l'imaginer, hein, qui la menace, qui lui promet une mort prochaine. Et donc là, on se doute bien que il y a une machination quelque part derrière. Et Doris Day est donc mariée à Rex Harrison, hein, son mari, le riche entrepreneur. Et pendant tout le film, elle va recevoir des coups de fil anonymes, elle va être suivie. C'est pas le meilleur film de David Miller. Moi, j'ai un petit problème avec la texture de l'image, la photographie. Je trouve que le film, il l'a vieilli de ce côté-là. Mais il y a quand même de beaux restes, hein, notamment cette première séquence dans la brume, qui est vraiment pas mal, qui, là, effectivement, peut faire penser à quelque chose d'un petit peu fantastique. Mais je pense qu'après, on dérape vite. On va vite vers quelque chose de beaucoup plus consensuel dans le policier, malgré quelques scènes qui sont pas mal. Il y a une scène où elle est coincée dans un ascenseur, où David Miller gère bien le suspense, il évite les effets un peu faciles, etc. Moi, je reproche aussi au film, c'est qu'on devine tout de suite qui est le méchant. Voilà. On devine ça assez rapidement. J'aime bien aussi, je trouve que le film arrive à bien rendre aussi l'ambiance de Londres, avec notamment ces pubs où les gens viennent boire de la bière ou manger des sandwichs. Je trouve il y a une forme de les personnages qu'on y voit, on voit des personnages esselés. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais pour moi, c'est un petit David Miller en comparaison de Seuls sont les indomptés. Mais il y a aussi Le masque arraché, hein, ce film policier quand même assez extraordinaire. On voit quand même qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, hein, ce film avec Jack Palance et Betty Davis, que moi j'ai découvert grâce à l'émission. Hein, c'est Gégé Potier là, qui en avait fait une critique dithyrambique et qui m'a donné envie de le voir. Donc un petit film policier qui s'adresse à mon avis surtout aux fans de Doris Day.
Mon cher Damien, es-tu fan de Doris Day ? Que sera, sera, sera ?
Alors Doris Day, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé Piège à minuit, alors que c'était très mal parti. Oh non, en soi c'était bien parti, parce que l'introduction dans ce brouillard londonien du coup m'a happé assez vite, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu fantastique. Il y a tout ce côté du coup brouillard londonien, Jack l'éventreur, que je me suis dit que ça allait partir dans cette direction, et pas du tout. Et c'est là où j'ai un gros problème avec le film, c'est que je trouve le film, tout son déroulé, très classique, quasiment assez long. Du coup, on a l'histoire de base de la femme qui reçoit des appels téléphoniques qui la plonge dans une phobie profonde où elle ne peut plus du tout se contrôler, une panique voilà, incontrôlable. Son mari qui la croit, contrairement à la police, qui est en mode bah, « c'est une étrangère, on s'en fout un peu, elle doit inventer et tout ». Et au fur et à mesure que le temps avance, bah, tous les gens commencent à penser qu'elle est folle et elle perd un peu elle perd un peu la confiance de tout le monde et de ses proches. Moi, contrairement à Thomas, je ne suis pas d'accord, ou c'est peut-être parce que je me suis désintéressé du film à son cours, mais je trouve que la menace principale, au moment où elle a révélé, je trouve que c'est un coup de génie. C'est un film qui triche énormément pour arriver à son climax, mais c'est un film qui est très cool par son final. En plus, les différents protagonistes qui sont mis en avant, bah, il y a l'héroïne, mais il y a aussi les potentielles menaces où on a quelqu'un qui serait là pour l'argent, un autre qui est là, mais on ne sait pas trop pourquoi, qui sert d'ouvrier du bâtiment en face, et on a un homme mystérieux qui apparaît une fois sur deux dans les plans, mais tout le reste de l'histoire est extrêmement classique. On se doute du déroulement de sa folie, des gens qui vont être proches d'elle ou non. Il y a juste à la fin où j'ai vraiment été surpris, et ça m'a fait un peu penser à l'effet, le film m'a rappelé l'effet Martha Mitchell, qui aura lieu d'ailleurs 14 ans plus tard, qui est une référence au Watergate. Martha Mitchell, c'était une des femmes, des hommes qui s'occupaient de gérer le service d'espionnage de Reagan, qui va se retrouver au Watergate, qui va dire à tout le monde qu'il y a un problème au Watergate et que personne ne va croire parce qu'on pense qu'elle est alcoolique et qu'elle invente des trucs, surtout que son mari dit qu'elle a tort, donc elle a forcément tort. Et du coup, l'effet Martha Mitchell, c'est une erreur de diagnostic par les experts, parce qu'au final les seules preuves dont on a à disposition, c'est les dires du patient, sauf qu'on le croit pas, et le film reprend très bien ce côté-là. Au final, moi je trouve que Piège à minuit, c'est une sorte d'Agatha Christie très cool, mais sans en avoir la puissance.
Il y a toute une partie, moi, au début, que j'aime bien, après, quand elle commence un peu à basculer dans la parano, et où elle marche dans la rue, et puis on a toujours l'impression que tout est une menace et que tout peut la tuer. Des gens qui font des travaux, on se dit qu'il y a un pot de fleurs qui va tomber et quelqu'un va la tuer. On a l'impression que les gens à la fenêtre, tout le monde la regarde, on a l'impression, enfin c'est la mise en scène hein, qui induit ça. Je trouve ces moments-là assez efficaces en fait. Et d'ailleurs, je trouve Doris Day vachement bien en fait dans le rôle, elle est très bien et elle arrive à gommer, parce que moi j'avoue que j'étais un peu. Le côté chanté m'avait un peu déplu dans le film d'Hitchcock, hein, où y a cette scène chantée qui permet de retrouver son fils kidnappé dans L'homme qui en savait trop, voilà, qui moi m'agace un peu, parce que la chanson m'horripile en fait. Mais je trouve qu'il y a tout le début du film qui est vraiment, moi je trouve que les 20-25 premières minutes sont excellentes, et après, comme le dit Thomas, effectivement, on devine un peu quel est les tenants, les aboutissants de la machination. Donc du coup, on s'accroche moins au film, qui reste quand même un film, tu l'as dit Thomas, scène de l'ascenseur, tu as rappelé Damien d'autres qualités du film. Très bonne interprétation, Roddy McDowall aussi qui est très bien dans le film. Ça reste un très bon film. Enfin, je veux dire, ça reste ta très bonne série B de policière. Voilà. Mais quand on a vu les autres films de David Miller, on est en droit d'attendre un peu plus. Voilà. C'est donc disponible chez Elephant Film, ça s'appelle Piège à minuit, et c'est un film de David Miller avec Doris Day. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.